Alors, petite question. Je croyais que c'était la zapette, mais non, c'est des clés de Mercedes. Donc, à mon avis, ça fait défaut peut-être à quelqu'un. Mais j'ai besoin de la zapette. On l'a pas ? Non, ça marche pas. Bah, c'est pas grave, je te ferai signe. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un honneur, une grâce et un plaisir de pouvoir apporter la prédication. Et aujourd'hui, en cette belle journée d'été, qui finalement s'est avérée un peu plus humide et pluvieuse et un peu plus fraîche que la semaine passée. Et je vous avoue que ça me sert doublement. D'une part, parce que ça m'évite, vous savez, le dilemme du prédicateur pantalon ou short quand il fait chaud. J'en ai fait l'expérience. Le short n'est pas toujours bien vu, mais quand il fait chaud, voilà. Et à la fois, ça nous met dans le thème ce matin. Ce matin, j'ai à cœur que l'on s'attarde sur une question. Une question simple, mais fondamentale, et qui revient tout au long des évangiles. Une question que l'on entend de la bouche des pharisiens, de la bouche des disciples, de la bouche des autorités, des proches de Jésus. Mais c'est aussi une question que se sont posées, les proches de Jésus. Oui, c'est aussi une question qui est plus que jamais d'actualité, je trouve, encore aujourd'hui. Je suis toujours étonné, quand je discute au cabinet avec des amis ou des patients, des personnes pas chrétiennes, toujours étonné de leur réponse à cette question simple et fondamentale. Tu peux mettre la diapo d'après. Cette question, c'est qui est Jésus ? Et les réponses que j'entends souvent, ça devait être un sage, un peu philosophe, c'était un prophète parmi tant d'autres, un révolutionnaire, quelqu'un qui faisait des choses perçues comme des miracles à l'époque. Et souvent, c'est vrai que dans la réponse, il y a une connotation positive. Souvent, Jésus a été perçu comme une personne qui a eu une influence et qui a fait du bien. Quelqu'un qui a fait du bien. Alors honnêtement, ce matin, on aurait pu simplement aller sur Internet et demander à ChatGPT qui était Jésus. Mais bon, je ne l'ai pas fait personnellement, je vous laisse y aller par curiosité. Si vous tapez sur Google « qui est Jésus ?», le premier résultat qui sort, c'est Wikipédia, qui a une définition à vous donner. Mais ça ne va pas nous satisfaire non plus. Nous, pour savoir qui est Jésus, je vous propose qu'on aille dans l'évangile de Marc. Parce que cet évangile il a une petite particularité par rapport aux trois autres évangiles synoptiques. Aux deux autres évangiles synoptiques, pardon. C'est que dans Marc, Jésus se révèle peu à peu aux disciples, c'est progressif. Et il va le faire notamment par des signes, par des miracles qui vont appuyer son enseignement. C'est dans cet évangile de Marc que les récits des signes et des miracles sont les plus longs, les plus détaillés. Et Marc donne une autre perspective de l'identité du Seigneur, qui ne nous laisse pas indifférents. Alors je vous propose qu'on aille tout de suite lire ou sûrement relire le récit de la tempête dans Marc. Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors, quelques précisions sur la configuration géographique des lieux dont il est question ce matin, où ça se passe, ça. C'est sur le lac de Génézareth, aussi appelé lac de Tibériade, et ce lac se situe 200 mètres sous le niveau de la mer, d'accord, plutôt très chaud, et il est entouré de montagnes qui sont assez proches, notamment le mont Hermon, où il va y avoir de l'air plus froid. Et ces masses d'air chaud et d'air froid se mélangent, et bref, ça fait que les tempêtes sont fréquentes, les perturbations météo sont fréquentes sur le lac. D'ailleurs, en 2022, il y a encore une tempête violente qui a détruit toute une berge du lac. Alors les disciples, ils étaient pour certains pêcheurs de profession, assez familiers quand même avec le milieu maritime, même si on sait qu'ils n'avaient pas trop le pied marin. Mais quand même, il faut s'imaginer que c'était une tempête violente, peut-être inhabituelle. Et il se sentait vraiment en danger. Et je crois que ce matin, il est assez facile de nous identifier aux disciples, des disciples qui sont effrayés par les circonstances. Avec Amélie, mon épouse, on se souviendra longtemps de notre retour de voyage de noces. Le jour du départ, on devait faire 30 bonnes minutes de bateau pour rejoindre l'aéroport. Donc je vous laisse imaginer, des palmiers, une eau turquoise, cristalline. On s'est dit, bah, chouette, une dernière promenade sur l'eau avant de retourner à notre quotidien. C'est un bateau de taille moyenne, avec une trentaine de passagers à bord, plus les bagages, donc beaucoup de poids. Et on peut s'imaginer comme une très grande barque avec un petit moteur. En fait, ces 30 minutes de balade, elles se sont transformées en une heure de terreur. En fait, la barque, elle était dirigée par un ado d'à peine 16 ou 17 ans, en short, claquette, et on devait naviguer dans des creux de plusieurs mètres, une houle de dingue. On s'en souvient, on s'en souviendra toute notre vie. Les vagues se brisaient sur l'embarcation, les bagages trempés et de l'eau vraiment qui venait déjà à ras du bord. Et là, les visages bien bronzés de la semaine de vacances commençaient à devenir bien verts. Tout le monde, et moi qui ne trouve rien de mieux que de dire à Amélie, écoute, si on chavire, l'important, c'est de s'éloigner le plus possible du bateau, hein, pour ne pas être aspiré au fond, hein, les bagages, c'est pas grave, tu laisses. Alors vous imaginez que cette allusion au naufrage du Titanic n'a pas vraiment apaisé les choses. Et bref, honnêtement, on a eu très très peur. Et en réalité, notre peur, à ce moment-là, elle avait deux sources. Vous comprenez, il y avait les circonstances et le pilote. Les circonstances, c'est que la mer était déchaînée avec des creux de plusieurs mètres. Et notre sort était remis à un jeune pilote qui n'avait pas du tout notre confiance, parce que lui aussi, il semblait dépassé par les événements. Ici, dans le récit de Marc, la peur des disciples, elle a également deux sources. Des éléments déchaînés sur le lac de Tibériade et leur maître, à qui ils ont remis leur sort, qui dort. Oui, Jésus dort. Jésus vient de passer beaucoup de temps à guérir et enseigner les foules. Et il est à ce moment-là, c'est vrai, un homme fatigué, épuisé, qui a demandé à rejoindre l'autre rive du lac. Il a besoin de se mettre à l'écart et de reprendre des forces. Marc nous précise un peu avant, dans le chapitre 3, une immense foule le suivait, venue de Galilée, Judée, Jérusalem, Tyr, Sidon et d'autres territoires de l'autre côté du Jourdain. Il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à sa disposition pour éviter d'être écrasé par les foules. Parce que Jésus est un homme, en chair et en os. Il a des besoins humains. Il a eu besoin, à ce moment-là, de se mettre à l'écart de la foule et de se reposer. Alors voilà, Jésus prend du repos, et il est, semble-t-il, plongé dans un sommeil profond, au-delà des circonstances. Et ça me paraît important. La tempête fait rage, les vents et les eaux sont déchaînés, l'eau commence à remplir la barque, les 12 disciples sont paniqués, ils essaient d'écoper la barque, ils essaient d'enlever l'eau, sûrement, on imagine. Ils sont sûrement ballottés de droite à gauche, de haut en bas, avec la peur de chavirer. Mais Jésus, Rabbi, le maître, il dort. Et oui, il y a tant de malades, tant de guérisons, tant de choses à accomplir, tant de personnes à enseigner, tant de choses à faire comprendre aux disciples, tant de choses encore à révéler. Et pourtant, là, c'est le temps pour Jésus de se mettre à l'écart et de reprendre des forces malgré la houle et le vent, malgré les circonstances. Et cela, ça m'interpelle. Est-ce que lorsque je suis fatigué, épuisé, est-ce que je m'autorise à prendre du repos? Est-ce que parfois, je m'autorise à prendre du repos et me mettre à l'écart? Alors un peu, parfois, systématiquement, bon, on connaît tous des gens qui sont tout le temps crevés, hein, mais quand même, on est dans un monde où tout va très vite, où on est tout le temps sollicité. Et parfois, on a du mal à s'autoriser une pause. On a du mal à s'autoriser un peu de repos. Surtout quand ça s'agite, qu'il y a plein de soucis, qu'il y a encore plein de choses à régler, plein la tête, sans arrêt. On se dit que ce n'est pas le moment de se reposer. Et qu'est-ce qu'on fait? On écope. on essaie de vider l'eau. Eh bien, la lumière de la parole dans ce passage, je pense que nous ne devrions pas prendre le repos à la légère. Petite anecdote, cette semaine, je discutais avec une nouvelle patiente là, de 40 ans, et elle me confiait qu'elle avait fait un burn-out. Alors, je savais ce que c'était, mais là, elle me l'a raconté, et vraiment, ça m'a fait quelque chose. Donc, de la charge mentale, des trucs à gérer, plein de préoccupations, pas le temps, pas le besoin, pas l'envie de se reposer. Et boum, un matin, elle se lève et sans savoir pourquoi, elle se met à pleurer. Elle ne peut plus s'arrêter de pleurer. Elle ne sait pas pourquoi. Et là, elle remet tout en question, son travail, sa vie de famille, sa capacité à être une bonne mère. Et ce qui l'a marqué, et c'est ce qui m'a marqué dans son récit, c'est qu'elle n'a rien vu venir. Alors, je ne sais pas si certains ce matin ont déjà vécu ça, ou bien n'en sont pas loin, malheureusement, sans s'en rendre compte, j'espère pas. Mais l'attitude de Jésus, elle doit nous faire réfléchir. Je crois que la parole, d'une certaine manière, nous interroge. Est-ce que je prends le repos qui m'est nécessaire? Ou est-ce que j'attends que tout soit calme, tout soit réglé dans ma vie pour me le faire? Et ce qui n'arrive, soyons honnêtes, quasiment jamais. Mais peut-être que aussi nous essayons de nous reposer, mais que notre sommeil est difficile, il n'est pas réparateur et qu'il est perturbé. Peut-être que nous sommes épuisés parce que nous dormons mal et que les mauvaises pensées viennent se briser sur notre tête au milieu de la nuit. Vous savez, quand vous vous réveillez à 2 heures du matin et que c'est des pensées très négatives qui arrivent et ça mouline. Dans la famille, on appelle ça le petit vélo. Dans le contexte de ce matin, on pourrait parler du petit rameur. On rame, on essaie de retrouver le sommeil, mais ça ne vient pas. Et ça peut toucher à notre mental. Une autre petite parenthèse, avant de revenir au texte. Dans les années 60, il y a un chercheur américain qui a fait une expérience. Il voulait voir combien de temps l'humain pouvait rester éveillé sans dormir. Donc il y a un ado de 17 ans qui s'est porté volontaire et qui a réussi à tenir 11 jours sans dormir. C'est pas mal, hein? Et au bout de 11 jours, c'était catastrophique. Déjà, ils n'arrivaient plus à le maintenir réveillé. Et là, c'était donc il était confus, perte de mémoire, hallucination. Il était amorphe. Et il avait des troubles de l'humeur. Il souffrait de paranoïa, de dépression. Il n'arrivait plus à répondre aux questions qu'on lui posait. Il était envahi, ça c'est lui qui le dit, de pensées négatives. Le repos est nécessaire et le sommeil est vital. Jésus lui-même a vécu la fatigue en chair et en os. Et je crois qu'il peut et qu'il veut nous venir en aide si nous avons des problèmes de sommeil. Parce que lui, il sait ce que ça produit dans notre corps. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il a les clés du sommeil. Je ne vais pas le développer, mais plus loin, Jésus va dire en Marc qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire qu'il est le repos en personne. Oui, le Seigneur peut être notre repos si nous en avons besoin ce matin. Le Seigneur prend un temps de repos parce qu'il est venu en chair et en os et qu'il est pleinement homme. Mais c'est cette humanité même de Jésus, au cœur d'une situation périlleuse, qui va affoler les disciples. Et on les comprend. Alors, en panique, il réveille Jésus et ce qui va suivre ne va pas les apaiser du tout, bien au contraire. Ils vont être encore plus troublés par ce qu'ils vont voir et par ce qu'ils vont entendre. Le mot grec employé ici dans la Bible, c'est phobéo, qui donne son origine au mot phobie, vous savez, c'est la crainte, l'effroi, la terreur. Ils vont être terrorisés. Et Jésus se réveille et il parle au vent et aux eaux. Il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent, c'est ça, et il eut un grand calme. Non seulement le Seigneur calme la tempête, mais il calme aussi les eaux. Il faut s'imaginer qu'à l'échelle d'un lac si grand que le lac de Tibériade, c'est pas si évident. Parce que si les vents s'arrêtent, la houle, elle ne s'arrête pas tout de suite. Il faut plusieurs heures. En fait, ici, ce que nous avons, c'est tous les éléments d'une manifestation divine. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Ces éléments, c'est un déchaînement des éléments de la nature, des humains effrayés, mais une intervention divine avec une parole efficace, une parole qui a autorité, et une parole qui remet de l'ordre dans le chaos. Alors vous vous souvenez de Timothée Minard qui était venu au Carrefour d'enseignement. Il a écrit un livre sur les signes et miracles dans la Bible. Et il a fait un travail énorme pour catégoriser, classer, trier toutes ces manifestations divines de puissance. Et il donne ce terme qui regroupe pas mal de miracles, et ce terme, c'est les dunameis. Dunameis, ce sont les actes de puissance qui démontrent la puissance que Dieu manifeste au travers de Jésus. Dunameis, c'est le terme qui revient au sujet des miracles de Jésus plus de 120 fois dans le Nouveau Testament. Mais dunameis, c'est aussi, comme dans le psaume 106, qui parle de l'Exode. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Les dunameis manifestés par l'Éternel au travers des prophètes de l'Ancien Testament, ce sont les mêmes manifestés par Jésus dans les évangiles. Et ça, c'est important. Parce que cette manifestation divine est le puissant miracle sur la nature dont les disciples sont témoins et qui les terrorise. Il nous montre que, oui, vraiment, Jésus, il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu et tout pouvoir, toute puissance lui a été donnée sur la terre et dans les cieux. Amen. Alors honnêtement, si on avait été parmi les 12 disciples, encore une fois dans cette situation, ben moi personnellement, dans cette situation-là, j'aurais pas été de ceux qui auraient été d'empêcher qu'on réveille Jésus. J'aurais pas dit non, surtout ne le réveillez pas, laissez le Seigneur dormir, il est fatigué, il en a besoin. Non, nous aussi, on aurait réveillé Jésus. Et les paroles du Seigneur, quand il se réveille, eh ben elles nous surprennent, parce qu'il fait un reproche. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alors on a beau lu et relu ce passage plusieurs fois pour la plupart, je trouve que ça fait toujours le même effet. Ça nous remue. En même temps que ça remue les disciples, ben je trouve que ça nous remue. Parce que quand même, c'est difficile de reprocher aux disciples leur attitude. Mais au fond, que leur reproche Jésus? Est-ce que c'est vraiment leur manque de foi? Si on lit le récit de la tempête dans les évangiles de Matthieu et Marc, dans les autres synoptiques, la question du Seigneur, elle y est formulée autrement, mais c'est toujours le même sens, c'est toujours la même question. Elle est formulée comme ça. Où est votre foi? Où est votre foi? Alors Timothy Keller, célèbre pasteur et écrivain américain, vous savez que j'aime beaucoup, lui, il reformule la question comme ça. Quelle est la cible de votre foi? À quoi elle s'accroche? Vous savez, c'est un peu comme si vous étiez en salle d'opération juste avant une chirurgie. Moi, je me souviens de mes opérations des genoux. Vous êtes là sur un petit brancard, pas confortable, tout serré, très dur, dans des couloirs dont vous ne voyez que les lumières du plafond, et vous êtes secoué par un brancardier qui vous descend au bloc opératoire, vous savez, en attente de l'intervention. Franchement, je trouve que c'est toujours un peu angoissant, surtout si on n'est pas familier avec le milieu médical. Et là, on attend souvent seul avec juste des petits bip-bip, des bruits de couloir environnants. Et là, à un moment donné, vous apercevez une silhouette avec un masque. C'est le chirurgien qui s'avance et qui vous dit « Tout va bien se passer, monsieur Prévost. » Et là, la seule chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher pour le croire, c'est de se dire qu'on peut avoir confiance dans qui il est. Un chirurgien avec ses compétences, de bonnes intentions, qui sait ce qu'il fait, et surtout qu'il aime son job et qu'il le fait bien. En fait, là, le reproche de Jésus, il pointe par amour pour nous et pour les disciples vers cela. C'est comme s'il leur disait, mais comprenez et saisissez qui je suis. Vous pouvez vous accrocher à moi en toute confiance. Alors peut-être vous n'êtes pas convaincu par ça. Peut-être que vous dites, Timothy Keller, s'il dit ça, c'est bien, si Vincent il dit ça aussi, c'est bien, ça le regarde. Moi, j'ai quand même l'impression que Jésus il fait un bon reproche, là, il pointe vraiment la foi des disciples. Et bien, un autre élément va nous éclairer, et j'espère confirmer ça. En fait, en Marc, dans l'évangile de Marc, quand il rédige son évangile, il va utiliser les mêmes éléments de langage qu'un autre récit. Celui de Jonas. Jonas, c'est un prophète qui va désobéir à Dieu et qui va attirer la colère de Dieu sur lui dans sa fuite. Je fais un petit rappel. Lui et les marins du bateau qu'il va utiliser pour fuir, ils vont se retrouver au cœur d'une tempête dont Dieu est à l'origine. Je vous propose qu'on lise un court passage du livre de Jonas pour bien l'avoir en tête. Je ne vais pas l'afficher, je vais juste le lire. Ces hommes, les marins, eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà, on voit que les éléments de point commun entre les deux récits sont nombreux. Comme dans Jonas, une tempête se lève et les éléments se déchaînent. Jonas et Jésus sont réveillés tous les deux par des marins qui ont peur de périr. Dans les deux récits, une intervention divine et puissante et miraculeuse arrête la tempête et calme les eaux. Et dans les deux situations, cette intervention effraie encore plus les marins et les hommes que la tempête elle-même. Alors, la question c'est, Jésus serait-il un prophète comme Jonas, si Marc fait tant de rapprochements? Eh bien, il y a aussi de grosses différences qui vont contraster les deux personnes de Jonas et de Jésus. Parce que Jésus, lui, il n'a pas désobéi. Alors que Jonas, il a fui sa mission. Jonas ne voulait pas, au fond, le salut des habitants de Ninive, alors que Jésus, lui, il désire que tout soit sauvé. Jonas a été jeté à l'eau pour que la tempête cesse, alors que Christ l'a fait lui-même. On voit que les différences sont plutôt nombreuses. Alors pourquoi Marc fait-il finalement une référence si directe à Jonas pour raconter le miracle de Jésus? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une erreur? Non, Marc ne s'est pas trompé, ce n'est pas une coïncidence. Je crois que Marc, il avait saisi la portée de l'épisode de la tempête dans la grande histoire du salut. Je crois qu'encore une fois, la Bible ne nous laisse rien au hasard et elle nous surprend. La Bible, parole vivante, inspirée de Dieu, elle sait ce qu'elle fait. Car le Seigneur savait très bien ce qu'il faisait au milieu du lac, dans la tempête. Il savait ce qu'il attendait au bout de sa mission sur la croix. Il savait quelle tempête il était venu calmer pour tous les hommes à la croix. Peut-être même que Jésus a permis cette tempête. Il n'a pas seulement réagi aux circonstances. Et puis pour encore plus appuyer, Marc avait peut-être en tête aussi le psaume 107, qui a été écrit par le roi David, probablement 1000 ans avant cet épisode. Et ce psaume, il dit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent, les vagues se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Le psaume 107, il a pour thème central la délivrance que Dieu apporte à ceux et celles qui crient leur détresse. Une délivrance qui a pour origine sa bonté. Ce psaume souligne que nous sommes délivrés de notre détresse en raison de la bonté de Dieu, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Et ici, le mot traduit par bonté, eh bien, il vient de l'hébreu « kesed », qui veut dire tout ça. Grâce, miséricorde, amour, bienveillance, affection, attachement, compassion, clémence, faveur. Alors, à la lumière de la réponse de Jésus, à la lumière du psaume 107 et des intentions de Marc, on peut se saisir maintenant de ces contrastes entre Jonas et Jésus pour répondre à cette question : qui est Jésus ? Jésus, en vérité, il est bien plus que Jonas. Jonas, à cause de sa désobéissance, il est descendu dans le ventre d'un poisson. Alors que Jésus, à cause de son obéissance, est descendu nous rejoindre dans notre humanité. Jonas, il a été jeté à la mer par les marins, alors que Jésus est allé volontairement par amour à la croix pour nous. C'est par pur amour qu'il est descendu dans les bas-fonds de notre humanité, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, parce qu'il est bon et qu'il nous aime parfaitement. Amen. Jonas est tombé à la mer afin que les marins soient rescapés, alors que Jésus, lui, est monté à la croix afin de vaincre la tempête de la mort pour nous. C'est cette tempête-là qu'il est venu apaiser aussi. En fait, Jésus, il est beaucoup plus que le prophète Jonas. Et j'emprunte à Paul, cette fois-ci, notre pasteur, avec qui j'ai échangé là en préparant ce message. Ce terme plus théologique. En fait, Jésus, est l'antitype de Jonas. C'est l'antitype de Jonas. Et une dernière différence qui fait toute la différence pour nous, c'est que le troisième jour, Jonas, il a été recraché par le poisson pour continuer son ministère terrestre, alors que le troisième jour, le Seigneur est ressuscité pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, qui est Jésus ? À la fois, il est pleinement homme pour comprendre les faiblesses et les besoins de mon humanité. À la fois, il est pleinement homme pour porter tout péché et mon péché. Mais aussi, il est pleinement Dieu pour manifester sa puissance dans ma vie. Pour remettre de l'ordre dans les endroits de chaos, peut-être. Et me sauver des grandes eaux. Parce que Jésus est Kessed, il est bonté. Et c'est lui qui nous ramène au bon port. En début de ce partage, on a vu que la peur des disciples avait deux sources. Vous vous rappelez ? L'une, c'était le pilote, et l'une, c'était les circonstances. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, ce matin, non seulement nous pouvons avoir confiance dans le pilote, dans le capitaine, parce que nous pouvons être sûrs de ses compétences et de ses intentions pour nous, mais aussi, nous savons qu'il a encore plus que ça, autorité sur les circonstances. Il a autorité sur nos tempêtes. Et oui, c'est vrai que tout au long de notre existence, il y a des tempêtes qui se lèvent sur l'embarcation de nos vies. Parfois, les circonstances nous accablent. Mais je trouve que ça change tout de savoir que c'est Christ qui est aux commandes de ma vie. Parce que nous savons qui il est et nous savons qu'il connaît parfaitement les tempêtes que nous traversons. Alors, quelles tempêtes sommes-nous en train de traverser en ce moment ? Qu'est-ce qui nous remue ce matin ? Jusqu'à nous donner le mal de mer peut-être, le vertige, à nous faire chanceler, comme dans le psaume 107. Quelle tempête est si forte dans ta vie que tu as la sensation parfois que tu vas chavirer ? Et je vous propose simplement, pour terminer, qu'on prenne quelques instants pour qu'on puisse chacun méditer sur ça, sur ces tempêtes présentes dans nos vies encore, et qui nous font peur, et peut-être même qui nous terrorisent. Avec la liberté de fermer les yeux, ses besoins, on va prendre ce temps maintenant.